Il y a des particularités comme l'écolalie. L'écolalie, c'est la répétition de ce qui vient d'être dit. Quand vous êtes en interaction avec quelqu'un, vous comprenez votre rôle qui est complémentaire de celui qui vous parle. Et donc, par exemple, si on dit à l'enfant, tu veux un biscuit, normalement, il répond oui ou non, ou il répond. Là, chez l'enfant avec autisme, il va répéter, tu veux un biscuit, exactement avec la même intonation. Et donc, ça montre que l'enfant ne comprend pas exactement à quoi ça sert le langage. Alors, il fait un effort, il répète, mais il ne sait pas quoi en faire. Alors, souvent, l'écolalie, on la trouve dans le développement ordinaire, chez les enfants ordinaires. Et il vaut mieux, finalement, dans l'autisme, il vaut mieux un enfant écolalique qu'un enfant complètement mutique, parce que souvent, en s'appuyant sur l'écolalie, on peut arriver à travailler, à faire comprendre cette complémentarité. Et puis il y a aussi des problèmes d'intonation, avec des intonations bizarres, une voix mécanique, et puis surtout des difficultés au niveau de la pragmatique, c'est-à-dire qu'on a des personnes de bon niveau intellectuel qui accèdent à un langage très élaboré. Chez les personnes Asperger, on a quelquefois un langage même qu'on qualifie de pédant, tellement il est parfait sur le plan sémantique, sur tous les plans, mais pas la pragmatique. C'est-à-dire la pragmatique, c'est l'utilisation sociale. Si je parle très bien, mais que je parle toute seule, ou si je parle à quelqu'un, mais sans me soucier de savoir si ça l'intéresse ou pas, qui est souvent le cas, par exemple, ils vont se passionner à avoir un intérêt restreint pour les horaires d'avion, par exemple, et donc ils vont vous entretenir pendant une demi-heure des horaires d'avion en disant d'où ils viennent, etc. Donc l'interlocuteur est un peu étonné, il donne des signes peut-être d'impatience, et pour les personnes qui sont dans ce genre de fonctionnement, eh bien, n'en tiennent pas compte et donc ils continuent. Donc, c'est vrai que ça n'aide pas à leur insertion sociale. Nombreux problèmes sensoriels aussi, avec, bon, je donnerai juste un exemple, on a de l'hyper ou de l'hyposensibilité. L'hypersensibilité, elle est souvent au niveau auditif. Et donc, ça explique certains des troubles du comportement. Parce que, par exemple, les parents nous expliquent souvent qu'il y a des troubles du comportement quand on va au supermarché ou quand l'enfant sort dans le préau à l'école. Et c'est des endroits où ça résonne, où il y a beaucoup de sons difficiles à gérer. La petite musique de fond, qui est souvent pas très intéressante dans les supermarchés, ça les sature et donc ça donne des troubles du comportement. Donc, on avait fait un travail avec un ORL de Toulouse où on a montré qu'il y avait des auto-émissions cochléaires géantes chez beaucoup de ces enfants. Et là, la cochlée, c'est un relais vers le cerveau. Et donc, quand les sonorités arrivent dans ce relais, il y a un mécanisme pour pousser, si vous voulez, pour amplifier le signal, mais il y a aussi au niveau du cerveau des mécanismes descendants pour inhiber. Et c'est ce qui fait que quand vous êtes par exemple dans une pièce où il y a du monde, mais où vous êtes en conversation avec quelqu'un, votre cerveau est capable d'écarter les bruits parasites pour vous focaliser sur la conversation qui est en cours. Et on pense que chez beaucoup de ces personnes, il y a cette difficulté à trier l'information et donc les troubles du comportement viendraient du fait qu'il y a une espèce de bombardement sensoriel qui est donc source d'un grand inconfort. Et donc avec cette ORL et un audioprothésiste, on a apporté du confort à certaines de ces personnes en proposant des obturateurs à évents. C'est-à-dire, ce sont des petits bouchons d'oreilles, mais bien sûr, il n'est pas question de mettre des boules qui est, hein, parce que si on veut que le langage se développe, il faut que l'enfant entende. Mais ces petits obturateurs à évents comportent donc un petit canal qui laisse passer les fréquences de la voix humaine. Donc, et on voit des enfants se détendre vraiment parce que justement, à ce moment-là, ils peuvent se focaliser sur les éléments importants, c'est-à-dire le langage quand ils sont en interaction avec les autres. Au niveau intégration de l'information, on a plusieurs approches. Il y a l'approche concernant la cohérence centrale. Nous, quand on voit une scène, on ne va pas chercher le petit détail, mais on voit l'ensemble et on tire la signification de l'ensemble. Et chez les personnes avec autisme, il y a une focalisation sur le petit détail qui fait que, et dans le domaine social, il est évident que c'est très important d'avoir cette cohérence centrale. Parce que ce n'est pas le petit détail, ce n'est pas la petite boucle d'oreille un détail physique qui fait qu'on va comprendre ce qui se passe socialement. Il y a aussi les fonctions exécutives qui sont atteintes et qui donnent des difficultés de planification et contrôle. Et enfin, il y a le mécanisme de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité que l'on a à prêter aux autres des intentions, des états mentaux. Je sais si, quand je fais un cours, s'il y a un étudiant qui s'ennuie, je le vois. Bon, voilà. On sait deviner ce qu'il y a, ou alors si on voit une personne qui est gênée, on va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a une espèce de ce qu'on a appelé une cécité mentale, c'est-à-dire une difficulté d'accéder à ce genre de fonctionnement. Alors, je vais passer vite parce que je vais m'arrêter un petit peu sur la théorie de l'esprit. On va voir si vous avez la théorie de l'esprit. Alors, c'est un petit test qui a été mis au point qui s'appelle le test de Sally et Anne. Donc, en général, les enfants de 4 ans le réussissent parce qu'ils savent attribuer des états mentaux aux autres. Ils savent que quelqu'un a une information ou ne l'a pas. Ce test, c'est pour voir ça. Alors, on a deux petites poupées. On a Sally, et Sally, c'est celle qui est en blanc, et celle qui est à droite, c'est Anne. Alors, Sally a une bille, et elle va la mettre dans le panier. Vous voyez, deuxième image. Elle s'en va faire une petite balade. Et Anne, pendant ce temps-là, va prendre la bille dans le panier et la met dans la boîte. Et alors on demande à l'enfant, que va faire Sally quand elle revient ? Où va-t-elle aller chercher la bille ? Et donc les enfants de 4 ans savent que Sally ne sait pas. Il lui prête à savoir, elle ne sait pas et donc elle va aller chercher dans le panier. Et les enfants autistes qui ont un niveau de développement un petit peu supérieur, jusqu'à 5-6 ans, eux vont dire, elle va aller chercher dans la boîte. Parce qu'ils ne se mettent pas à la place du personnage. Bon, je ne vous ai pas fait vraiment le test. Hein. Alors, je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a montré, alors maintenant on a des techniques, nous on s'est équipé dans notre laboratoire, c'est intéressant, l'Eye Tracker, donc c'est un dispositif qui permet de saisir la direction du regard des personnes. Donc la personne est devant un écran, voyez, imaginez, vous êtes devant cet écran, vous regardez cette image, alors il y a, en dessous il y a un appareil, l'Eye Tracker, que l'on va paramétrer sur le centre de vos yeux, et il y a un ordinateur qui est relié, et on va donc voir le trajet de votre regard. Alors on a ici, c'est une scène qui est tirée de Qui a peur de Virginia Woolf, et donc on voit en jaune, c'est ce que regarde la personne ordinaire, la personne typique, comme vous et moi. Vous voyez que dans la photo du haut à gauche, on regarde surtout la zone des yeux et le nez. C'est la zone qui est la plus riche en informations sociales. Et vous voyez en rouge ce que regarde la personne avec autisme, le menton, un coin de la bouche. C'est-à-dire, si on cache tout le reste, si on ne regarde que ça, on n'a pas beaucoup d'informations sociales. Et donc dans une scène, vous voyez ici, ça a été pour le rendre plus lisible, On voit ici la scène entre trois personnes, une personne qui montre un tableau, et on a un va-et-vient du regard entre les différents éléments de la scène, ce qui aide à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous voyez ici un petit tracé uniquement sur une personne. Donc on voit que la technique a permis de montrer qu'il y avait vraiment une lecture de l'environnement qui est très différente. Alors j'ai toute une série d'images comme ça, vous voyez, toujours en rouge là sur le bord du visage, donc on n'a pas une grande chance de voir quelque chose, alors que là ce sont les yeux. Bon, j'en ai toute une série, voilà, toujours en jaune on regarde les yeux, la zone la plus riche, et en rouge on regarde le collier, le menton, un petit peu la bouche, voilà, toujours pareil, voilà. Et ici ce sont des séquences, et on voit en jaune que la personne alterne entre les deux protagonistes, alors que la personne avec autisme est en train de regarder toujours la même personne et toujours le même détail. Et voilà, ici encore une scène à trois où on voit la triangulation qui existe. La personne ordinaire cherche les informations partout. Il y a trois personnages, donc on regarde les trois, alors que la personne avec autisme va de la bouche de l'un à la veste de l'autre, et donc là encore un appauvrissement de ce qui est social. Bon, je vais passer. Ici, on a un petit test où on demande aux enfants de dire le bonhomme qui est au milieu, quel est le chocolat qu'il préfère. Alors, tous les enfants ordinaires se servent du regard et ils disent c'est celui qui est en bas à droite, alors que les enfants avec autisme ont vraiment du mal à comprendre ça. Alors ça, c'est un travail qui a été fait dans mon laboratoire. On a montré que lorsqu'on regarde un visage, il y a ce qu'on appelle un biais du regard vers les mi-champs visuels gauche, c'est-à-dire le premier regard, c'est à gauche. Et donc, on a ici en bas la personne typique, donc on voit très bien la focalisation des premiers regards sur la gauche, alors qu'au niveau de la personne avec autisme, on a cette absence de biais. Et donc ça c'est une donnée qui a été montrée par un de mes doctorants, et ça pourrait contribuer, si vous voulez, au diagnostic précoce de l'autisme, contribuer, parce que c'est un élément parmi d'autres. Alors, j'ai toujours un petit peu de temps, ou bien il faut que... Je vais vous montrer quelques petites illustrations, je vais bientôt terminer. Hein. Voilà, ici c'est un test d'attribution sociale. Alors, regardez bien ce qui se passe. Donc, vous avez des petites figures. Bon, comme c'est indiqué, c'est une situation neutre, ça se balade et c'est tout. Alors on va passer maintenant à une situation où les gens voient en général une signification sociale. Les formes sont animées de telle manière que très vite, une personne comme vous et moi, on se fait son petit scénario finalement. Hein, on interprète. Voilà, il sort, il est jaloux, il les sépare. Voilà. Et les personnes avec autisme ont du mal à se projeter dans ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer aussi un petit film sur l'empathie. Donc la capacité à percevoir les émotions des autres. Voilà, bébé ordinaire. Un enfant qui a un syndrome de Down, une trisomie 21, a aussi un beau visage bien souriant. Et voilà un enfant avec autisme. Et bon, c'est passé un peu vite. Là, c'est un test dans lequel l'examinatrice fait semblant d'avoir mal. Et donc, on regarde la réaction de l'enfant pour voir son empathie. Et donc là, on voit une petite fille ordinaire qui est vraiment perplexe, qui est un peu perturbée par le fait que la personne s'est fait mal. Alors, on va voir aussi chez l'enfant qu'il y a une trisomie. Là aussi, il est perplexe devant l'émotion de la dame, ça lui fait quelque chose. Et voilà l'enfant avec autisme. Vous voyez, c'est vraiment très différent. Et c'est pas parce qu'il est mauvais qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et là, on voit. On met l'enfant en présence d'un jouet qui est un peu étonnant et on voit tout de suite le regard qui s'oriente vers la personne. Et puis regarde le visage quand même. Alors, suivant que la personne va être rassurante ou va l'encourager, donc c'est ce qu'on appelle le referencing, c'est-à-dire le fait qu'on se réfère à une personne pour comprendre ce qui se passe. Et les petits enfants ordinaires, quand il y a, quand il y a un problème dans l'environnement, ils regardent le visage tout de suite de l'adulte pour essayer de décoder. Donc ce qui est important, c'est que effectivement, les personnes avec autisme sont très en difficulté pour comprendre les signaux sociaux, les sentiments, les intentions d'autrui. Et donc, c'est ce qui les rend vulnérables dans les interactions sociales. Ils ont du mal à suivre. Voilà. Donc, il n'y a pas de traitement médical de l'autisme. Il y a des médicaments qui permettent d'atténuer certains troubles, donc d'apporter un petit peu de confort. Et le véritable traitement, c'est l'éducation spéciale, c'est-à-dire apporter des moyens de s'adapter mieux aux enfants, d'avoir une meilleure qualité de vie. Et donc, on évalue, on met en place un programme adapté à chaque enfant et on va le mettre en place dans un environnement qui va être structuré de manière à faciliter la lecture de l'environnement, à mieux anticiper, à mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, les nouveaux développements, c'est effectivement le dépistage précoce qui permet, donc avec une identification rapide, on va bien sûr tout de suite prévenir certaines aggravations et aussi soutenir la famille, parce qu'on connaît des familles qui ont eu une errance médicale, qui sont allées voir des tas de gens sans jamais avoir de réponse, et donc ça... C'est aussi très important d'intervenir à ce niveau-là. Et on sait que si on dépiste les enfants à 2 ans et qu'on travaille avec eux précocement, eh bien, on améliore beaucoup le pronostic à long terme. Et donc, c'est ce vers quoi on se tourne actuellement ici à Toulouse. Et on va ouvrir une structure innovante, puisque... Mon dernier voyage aux États-Unis, c'était pour me former à cette méthode de Denver pour les tout-petits, qui est une méthode dans laquelle on tient compte du fonctionnement des très jeunes enfants, c'est-à-dire on met en place un environnement socio-émotionnel positif. On fait des petites routines pour solliciter l'enfant et l'amener à s'engager socialement. Et à partir de là, on fait tout un programme de stimulation et d'apprentissage dans tous les domaines. Voilà, et on a montré, il y a eu une première étude aux États-Unis qui était un essai randomisé, contrôlé, et on a montré réellement l'impact de cette approche sur le développement des enfants. Voilà. Voilà, je vous remercie.